Verset 16 à 22. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Donc là, il s'agit de jurer par des choses secondaires. Donc placer la lumière de la vérité sous le boisseau de préceptes secondaires, par facilité, par habitude, par fainéantise de réfléchir ou d'évoluer peut-être, de se dire je vais faire ces petites choses, je vais choisir ce que je fais, et comme ça au moins je serai en règle. Donc exemple, attendre pour faire baptiser ses enfants et se dire qu'on priera de temps en temps avec eux, ce sera bien suffisant. Bah ouais, mais le baptême, c'est pas un truc annexe, quoi. C'est un truc vraiment un fondement, quoi. Donc le Seigneur invite le prêtre à reconnaître les fondements. Ça fait partie de son rôle. Les choses vraiment importantes, les choses non négociables, presque. Ou autre exemple, quand on ne se fixe pas des temps de prière ou de confession réguliers, c'est plus difficile, quoi. Le fait de dire « je m'inscris pour une heure d'adoration » ou dans un groupe de partage, de prendre quelques engagements bien choisis pour nourrir notre vie, et ça, c'est des phares. C'est des fondements dans notre vie, quoi. Voilà. Donc, en creux, enfin, ou de manière positive, le prêtre bâtit des autels. Et il embellit le sanctuaire pour faire advenir le règne de Dieu. Donc, bâtir des autels, ça va être de mettre en place des choses qui pérennisent la venue de Dieu. Quand on regarde les patriarches qui ont bâti des autels, souvent, ils disaient « je bâtis un autel quand il m'arrive quelque chose de particulier ». Soit quand ils se posent une question, soit quand il leur arrive un bienfait. Ils arrivent à tel endroit. Ah bah je suis arrivé à tel endroit, oh, à Sichem, je bâtis un hôtel. Le Sichem, par exemple, c'est l'épaule, le Sichem. Et c'est intéressant d'aller voir, il y a des sites qui décortiquent les mots hébreux, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'hébreu, comme moi, par exemple. Et Sichem, c'est épaule. Donc l'épaule, ça va être aussi la responsabilité, voilà. Et donc, si on lit le texte en se disant... Le patriarche bâtit un autel dans tel lieu, et ça veut dire la responsabilité. Ça veut dire que c'est comme s'il offrait à Dieu sa propre responsabilité, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que je rencontre un conjoint, je me marie avec la personne, et ça c'est un autel, c'est un fondement, c'est un roc. Et pendant toute ma vie, ce roc, Dieu va venir visiter ce roc. Ça va être quelque chose de bien visible. J'achète une maison, je vais demander à un prêtre de venir la bénir, et je vais mettre des icônes pour qu'on pense à Dieu. Tout ça, c'est comme des autels, c'est-à-dire des choses qui vont faire descendre le règne de Dieu avec puissance dans ma vie, dans ma famille, dans mon service, dans mon travail aussi. Un autel, ça peut être, je m'astreins à déjeuner avec mes collègues de temps en temps, une fois par semaine. C'est comme un autel, parce que les personnes vont voir qu'on fait attention à eux, quoi. On n'est pas juste à être chrétien et un peu méprisant, parce que, après tout, moi, ça me fait du bien d'être avec des chrétiens, mais je me mélange pas, quoi. Ça va être peut-être de faire des pauses régulières, de me fixer un nombre de cafés maximum par jour. Tout ça, c'est des autels. De choisir de jeûner une fois par semaine, ou deux fois, de jeûner en disant, bah, je m'abstenir de quelque chose de particulier, voilà, moi, je prends pas de sucre dans mon café, parce que moi je suis faible dans le jeûne, donc je vais faire un petit truc que personne ne remarque, voilà. Ça c'est un autel. Et donc dans cet item bâtir des autels, il y a une grâce liée aux autels, c'est aussi de repérer le temps de l'époux, je pense. Quand Jésus parle, il parle, alors là je suis dans le 3D, il est... à la page 8. Question sur le jeûne. Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Ça, c'est un super critère de discernement. C'est reconnaître quand il y a une joie donnée par le Seigneur. Et donc dans ce cas-là, bah, le Seigneur nous invite à jouir de cette joie, à ne pas nous priver. Et les moments de difficulté, les petites difficultés qu'on rencontre, et de se laisser tracter par cette difficulté pour offrir des choses au Seigneur. Parce que la personne à qui je dois pardonner, parce qu'elle m'a klaxonné de toutes ses forces alors que c'était pas ma faute sur le trajet du bureau, et hein, ça c'est comme si les poumes avaient été retirées, j'étais joyeux avant de la croiser. Et elle a déversé sa mauvaise humeur sur moi. Et donc, bâtir un autel, en fait, je vais repérer les moments où c'est opportun de bâtir un autel et les moments où c'est inopportun. Exemple, Saül a imposé un jeûne à son armée pendant une guerre. Et je pense qu'il avait un rôle de prêtre un petit peu décalé par rapport à ce qu'on demande à un prêtre, de repérer, est-ce que c'est le bon moment, quoi, de faire, d'affamer son armée qui n'en pouvait plus, quoi. Et quand c'est Jonathan qui est revenu, qui avait pris une citadelle et qui a mangé du miel, il n'était pas au courant de ce décret, il a dit, je suis désolé, mais on doit te tuer parce que j'ai dit qu'on devait tuer tous ceux qui mangeaient, quoi. Et le peuple prend sa défense en disant, mais non, il vient de prendre une citadelle, il a fait la guerre, c'est bon, quoi. Et il échappe de justesse à la mort, c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il était prêt à tuer son fils. Alors, le fils, ça va désigner une œuvre aussi. Hein. Donc, parfois, on va mettre en l'air une œuvre parce qu'on n'arrive pas à reconnaître si c'est le bon moment de bâtir un autel, de faire quelque chose qui nous paraît bon pour le Seigneur. Mais, si le Seigneur ne nous demande pas de faire ça, eh ben, il faut pas le faire, quoi. Voilà. Donc, il y a bien ces deux composantes, je pense, dans ce rôle de prêtre. C'est à la fois de reconnaître est-ce que c'est le moment, et à la fois, je mets en place quelque chose de fort et solide, parce que je pense que le Seigneur me le demande. Les tuyaux donnés par Jésus. Penser que tout est voulu par Dieu et relié à lui. Penser que tout est voulu par Dieu et est relié à Dieu, quoi. Jésus, c'est ce qu'il dit, hein. Est-ce que c'est pas plutôt le sanctuaire qui consacre cet or? Est-ce que le ciel n'est pas l'escabeau de, vous voyez? Quand on ramène tout à Dieu, c'est plus facile de ne pas s'attacher aux choses secondaires, parce qu'on se dit, même cette chose secondaire, c'est Dieu qui l'a voulu, quoi. Donc, je me ramène à Dieu, à la chose principale. Acquérir un regard spirituel. Quand on n'arrive pas à être suffisamment spirituel, peut-être qu'il nous manque des autels, c'est-à-dire des temps de prière, des choses solides dans notre vie, des engagements forts. Enfin, des engagements forts sur un petit truc, c'est pas forcément un gros autel, hein. Pratiquer que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne pas jurer, c'est ce que dit Jésus, ni par l'or, ni par le... Voilà, c'est on dit oui, on dit non, point. Voilà. C'est un autel aussi de ne pas jurer. Alors, verset 23-24, la chose suivante. Jésus dit, vous payez la dîme sur la mente, vous négligez la justice, miséricorde et fidélité. Donc ça va être fondé son discernement sur des détails qui semble gênant. Hein, le moucheron, c'est gênant. Donc on filtre le moucheron, et puis on avale le chameau. Voilà, Jésus était gênant, donc on a libéré Barabbas. Donc on imagine une loi infâme qui dit, on libère, on peut penser à des grands criminels, je ne vais pas en nommer, mais parce qu'on en a un autre qui nous gêne, quoi. Enfin, tout le monde le voit, quoi. C'est un scandale, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais parce qu'il était gênant. Et puis on va faire les efforts minimums pour se rassurer. Donc les pharisiens offraient la dîme, donc ils donnaient de l'argent pour le sanctuaire, sur les aromatiques, qui sont les moindres des plantes potagères. Bon, les exemples, ça va être par exemple, ne pas prendre en compte la demande d'un collègue de travail parce qu'il fait une faute d'orthographe. Voilà. Non mais c'est facile, en fait, en droit notamment, on est les champions, surtout en France, pour les vices de forme, quoi. Hein, oui. Même pour des... Bon. Écarter la vie de quelqu'un parce qu'il a fait une chose mauvaise dont nous avons connaissance. Le démon, en fait, emploie une stratégie redoutable pour écarter certaines bonnes choses dites par des gens, c'est de faire connaître quelque chose de mauvais que la personne a fait par le passé. Et nous, on va se dire, lui, de toute façon, on peut pas l'écouter parce que il a fait ça, quoi. Et tout le monde le dit, vous rendez compte, et on va écarter son avis, quoi. Donc, le rôle de prêtre en positif, ça va être maintenir la lumière, juger. Qu'est-ce que c'est que maintenir la lumière et juger? Normalement, c'est d'abord pour faire découvrir l'amour de Dieu. C'est la constante, normalement, dans la tête d'un prêtre, c'est je voudrais faire découvrir quel père plein de miséricorde est Dieu, quoi. C'est pas le gars qui juge et qui fout droit, c'est pas Zeus avec les gros sourcils épais, là, qui envoie les éclairs sur la terre. On a ce texte, je l'ai mis en 2F, ici en page 5, Jean 18, 12 à 20, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde », et les pharisiens disent « Tu te rends témoignage à toi-même », et donc Jésus leur dit « Mais vous jugez de manière purement humaine, quoi. Vous vous sentez jugé, alors que je suis venu apporter la lumière, donc je suis venu éclairer les bonnes œuvres du monde ». Et Jésus finit par dire que c'est les pharisiens qui jugent. Et ça se passe dans la salle du trésor. Je me demandais pourquoi la salle du trésor. Et c'est parce que moi je pense qu'il y a un lien avec le trésor qui déborde du cœur. C'est que si eux ont leur trésor, c'est de juger les autres et de toujours être à être particulariste et regarder le mal dans les autres, ce qui va être mis en lumière quand Jésus, lumière du monde, vient, ou quand une situation de jugement vient, c'est eux-mêmes qui vont s'accuser en disant tu nous accuses, quoi. Alors que Jésus, il dit, il détourne le péché, il détourne les yeux du péché des hommes pour les amener au repentir. C'est d'abord ça, Dieu. Dieu, c'est celui qui dit, mais regarde les belles choses que tu fais, appuie-toi sur ces belles choses et fais-en d'autres. L'objet du jugement, c'est pas d'être deux témoins afin de condamner. Parce que l'erreur des pharisiens, c'est ça, en fait. Ils disent, tu te rends témoignage à toi-même. Sous-entendu, on prend les trois textes de l'Ancien Testament qui parlent de ça, et on dit, bah, il faut deux témoins, sinon un témoignage n'est pas véridique. Mais en fait, c'est plutôt, quand vous voulez accuser quelqu'un, et bien là, vous devez être deux témoins. Quand vous voulez accuser quelqu'un. Mais Jésus, il va quand même trouver un deuxième témoin en disant, mon père est témoin, mais normalement, une personne suffit quand il s'agit de dire les bonnes choses. Il n'y a pas besoin d'un deuxième témoin quand il s'agit de dire les bonnes choses. Parce que quand on fait les bonnes choses, on est seul avec notre conscience qui est droite, quoi. On apporte la lumière. Alors, comment se garder de cela ? Pensez à notre Père Céleste qui nous donne des choses infiniment meilleures que les pains, les poissons et les œufs que nous lui réclamons, ou ceux qui viennent des hommes. À chaque fois qu'on demande un pain, un œuf ou un poisson, il faut vraiment croire qu'il nous donne du pain, un œuf ou un poisson. Donc, ce qui nourrit, les poissons, ça va être la connaissance. Et puis toujours discerner en deux étapes. Jésus dit, que dit-on d'abord, donc la réputation, donc savoir ce qui est dit de cette personne, ce que dit la théologie sur tel sujet. Et vous, que dites-vous? Donc c'est-à-dire se confronter de manière directe avec ou la personne ou ses écrits. Parce que un des pièges pour les pharisiens, quand on est enseignant, c'est de ne se fier que à ce qu'on entend dire, ou ce que dit la théologie, enfin ce qu'on a l'impression que tout le monde dit. Ou ce que dit une autre personne qui est comme nous. Justement, ils ont quand même condamné Jésus, en fait. Et le deuxième critère, c'était bien de se mettre à l'école de la personne et de voir, bon, bah, alors, que dit-elle ? Et puis de prendre une heure ou même 10 minutes, s'asseoir devant Jésus et puis d'écouter. Et puis se dire, bon, bah, est-ce que réellement cet homme-là est dangereux, hein ? Quelqu'un qui risque de renverser l'ordre politique en Israël, quoi. Et ça, c'est une tentation de notre rôle de prêtre, de n'être que dans le premier registre, quoi. Et du coup, de juger juste sur ce qu'on entend dire.